enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Donc, dans ce parler en langue, vous savez, quand il y a eu des moments charismatiques chez les catholiques, par exemple, chez les juifs, dans les églises messianiques, qu'est-ce qui s'est passé? Un juif ou un arabe musulman qui se convertit, savez-vous pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans une réunion, dans un truc, quelqu'un, sans s'en rendre compte, parle en hébreu, parle en yiddish, parle en truc, le gars, il lui dit, voilà, en yiddish, alors qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, il dit Jésus est le Seigneur, il est le Messie, il est Yeshua, etc. Le bonhomme est cassé. Vous comprenez? Ça qu'il faut. Ça, c'est le parler en langue aussi, c'est le deuxième aspect. Le parler en langue pour ma construction, pour mon édification, et le parler en langue compréhensible par quelqu'un dans l'auditoire qui n'est pas de ma culture, une langue que je n'ai pas appris, mais que l'autre comprend. C'est un signe. Maintenant, Paul dira quelque chose, je vous le dis en passant pour la contradiction, et il dit, mais la langue est un signe pour le non-croyant et la prophétie est un signe pour le croyant. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ce passage, parce qu'ils disent, mais il y a contradiction. Il dit qu'avec le parler en langue, il faut construire, puis en autre côté, il dit, après, le parler en langue, c'est pour le non-croyant, et il dit que même là, il ne le comprend pas. Ben, vous devez comprendre que quand il y a eu les prophéties, qu'il y a eu cette promesse de l'Esprit, eh bien, il faut comprendre que les Juifs, à cette époque-là, que les Israélites, à cette époque-là, refusaient l'appel de Dieu par les prophètes. Et Dieu a dit, vous ne m'écoutez pas avec une parole compréhensible, ben vous allez apprendre à entendre par une incompréhensible. Et quand ils ont été envahis par les Assyriens, quand les Babyloniens sont venus, eh bien ces braves petits Israélites qui pensaient être malins, qui pensaient être les plus forts à leur époque parce qu'ils pensaient qu'Israël était imprenable, nous avons le temple, rien ne nous arrivera, nous avons Jérusalem, c'est la capitale, Dieu ne nous lâchera pas. Eh bien, quand ils ont été envahis, quand ils ont été pris, quand ils ont été déportés, ils ont entendu des gens leur parler, ils ont été emmenés par un peuple dont ils ne comprenaient pas la langue, et là, la langue étrangère est devenue pour eux une langue de jugement. Et comme Paul dit, voilà, je parlerai à ce peuple par une autre langue, et même là, ils ne m'écouteront pas, c'est-à-dire que la langue, en tant que jugement, est une conséquence de refus, d'opposition, à un moment donné, ça peut être un parler en langue normale, ça peut être donc un parler en langue étranger qui peut venir, mais en tant que jugement, pour encore, c'est malheureux à dire, endurcir davantage. Et même là, ils ne m'écouteront pas. Donc, vous devez comprendre que dans le parler en langue, il y a trois significations. La première, mon édification. La deuxième, mon témoignage, un moyen de Dieu, un signe de Dieu pour quelqu'un qui est sincère, qui cherche, qui est ouvert. Ou alors un jugement de Dieu sur quelqu'un qui s'est fermé. Et même là, dit Dieu, il ne m'écoutera pas. Ça veut dire que le gars, il dit, mais c'est de la folie. Le parler en langue, c'est de la folie. Les gens sont dingues, excusez-moi du terme. C'est pour ça que Paul dit, attention. Si un inconverti rentre, il ne faut pas que le parler en langue soit un jugement pour lui, qu'il rejette en disant que c'est de la folie. C'est pour cette raison qu'il dit qu'il y en a deux ou trois qui parlent en langue, mais que le principe de puissance qui doit régner au milieu de nous, ce n'est pas l'abondance du parler en langue, c'est l'abondance de la prophétie. Vous devez comprendre ça, hein? Donc, parfois, vous avez des gens, pendant le culte, ils sont là, bah, ils parlent en langue, des voisins à côté, ils disent, mais c'est pas ça. Non. Deux ou trois parler en langue, suivi d'une interprétation. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation? L'interprétation, c'est, par exemple, quelqu'un d'entre nous parle en langue. Ce n'est pas, je rappelle encore, quand je parle en langue dans l'Église, ce n'est plus le parler en langue personnelle que je fais dans ma relation avec Dieu à la maison, au volant de ma voiture, en train de coudre, en train de faire la cuisine. Parler en langue, c'est quelque chose, c'est mon édification, mais ce n'est pas la même chose, n'a pas le même but que quand je suis dans l'église où il y a le corps rassemblé. Là, pour exercer ce parler en langue, il faut que je sois poussé par l'esprit, il faut que je sois conduit par l'esprit, parce que ce parler en langue n'est plus pour moi, il est une direction de Dieu pour l'église, et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'à ce moment-là je parle, pour que quelqu'un d'autre ensuite puisse interpréter, c'est-à-dire apporter le sens du message. L'interprétation, ce n'est pas une traduction mot à mot, c'est apporter le sens du parler en langue. Par exemple, je veux dire, si on parlait dans mon parler en langue, je dis, Seigneur, je te loue parce que tu m'as fait du bien, tu es grand, tu es merveilleux, tu es tout puissant. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es créateur du ciel et de la terre. Je dis ça en langue, je proclame en langue. La personne qui va interpréter ne va pas reprendre mot à mot la traduction. Elle va interpréter, elle dit, Seigneur, ton peuple te loue à cause de ta grandeur. Quand je considère les cieux, etc. Seigneur, je suis confondu devant l'immensité de ton pouvoir. Il reprend la pensée, simplement, mais pas avec la traduction mot à mot. Mais la pensée, elle est là. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle une interprétation. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans les meilleures traductions aujourd'hui, ou de la Bible, ou d'un bon document. Nous, on pensait pendant longtemps qu'une bonne traduction, c'est la traduction mot à mot. Par exemple, vous prenez une Bible d'Arbiste, hein, la Bible d'Arby, question de traduction mot à mot, je crois que c'est celle qui semble la plus fidèle. Mais on sait aujourd'hui, par les progrès de la linguistique, on sait aujourd'hui qu'une vraie traduction, ce n'est pas la traduction mot à mot, c'est amener l'interprétation de la pensée avec les mots d'aujourd'hui. Prendre un exemple très simple dans le langage non biblique, en italien, par exemple. En français, dans la langue française, on dit il fait un temps de chien. Hein, là, la prévenue, oh, vous dites, bon, aujourd'hui, il fait un temps de chien. Okay. Si vous traduisez mot à mot, vous allez dire en italien, un tempaccio de cane, c'est-à-dire un temps de. Un tempaccio, ça veut dire un mauvais temps de chien. Mais en Italie, ils disent pas un mauvais temps de chien. Ils disent un mauvais temps de loup. Tempaccio da lupi. La véritable traduction qui rend le sens réel, sociologique, par rapport à la culture, c'est pas notre traduction directe, temps de chien, c'est la traduction temps de loup. Le sens profond, écoutez-moi bien, est plus respecté par un changement des mots, parce qu'il respecte la culture et la signification exprimée dans le langage italien, que la traduction que je ferai mot à mot par rapport au français. Et vous retrouvez ça, et c'est, si vous voulez, on n'a pas le temps d'inciter, vous retrouvez ça dans les écoles de traduction, on a découvert que bien souvent, et dans la Bible, c'est un peu pareil, c'est pour ça que vous avez des versions constantes, périodiquement améliorées, changées ou nouvelles de la Bible, parce qu'on découvre par l'archéologie, on découvre par des documents, on découvre aussi par la connaissance biblique et on découvre aussi par la renaissance de l'hébreu aujourd'hui en Israël, on découvre que certains mots, certains mots hébreux sont mieux traduits, transcrits dans son sens profond que le mot à mot pur et simple correspondant. Et c'est ce qui fait parfois la richesse. Donc le problème pour un chrétien, c'est à la fois d'avoir une Bible mot à mot et d'avoir aussi cette Bible où on va même plus loin, ce qu'on appelle la Bible amplifiée, traduction amplifiée de QN, vous avez une parole vivante par exemple, qui lui alors va beaucoup plus loin que l'interprétation, il élargit le domaine et il met beaucoup plus large. Par exemple, il dit « Jésus-Christ est Seigneur » à la droite de Dieu le Père, et il dit « le peuple loue ». Alors il élargit, il explique dans la traduction d'une façon beaucoup plus large. Donc vous avez différentes traductions, mais ce que je veux vous souligner, c'est l'interprétation est parfois plus juste qu'une traduction mot à mot, parce que le mot à mot ne correspond pas réellement au sens profond, puisque l'original, j'allais dire hébreu, a une consonance, a une signification sociale, culturelle de l'époque, auquel le mot français ne correspond pas et qu'il faut une interprétation pour amener le réel sens original du départ. Voilà, alors, donc, j'ai parlé un petit peu du parler en langue et donc il faut bien comprendre que le parler en langue, nous avons parfois dans nos trucs le parler en langue chanté. Hein, on fait cela. Ça commençait surtout dans les moments de réveil charismatique où tous ensemble on chantait en langue dans l'église. Bon, il y a eu des visitations, il y a un moment des visitations de Dieu où c'est encouragé, mais on le fait parfois, c'est pas très très juste d'ailleurs, enfin c'est pas très biblique du moins, qu'on le fasse couramment dans l'église, qu'on demande aux gens de prier dans l'église couramment, si vous voulez, parce que c'est pas le sens. On le fait parce que les chrétiens chez eux ne prient pas beaucoup en langue. Alors on profite pendant qu'ils sont là pour les stimuler, pour les faire prier en langue, etc. Vous comprenez? Mais normalement, le parler en langue, édification qu'on fait parfois ensemble dans l'église, ça peut, dans une direction de Dieu, ça peut le faire, mais le parler en langue, édification dans l'église, doit être suivi d'une interprétation. Sinon, s'il y a un païen, quelqu'un qui vient, il dit, mais ils sont complètement dingues là-dedans, ils sont complètement fous, ils parlent en ibaragune, qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ce qui s'est passé pour ma conversion. Je suis accompagné mes parents, j'avais 23 ans, pour faire plaisir à ma mère. Ils accompagnaient un culte un dimanche matin, c'était à Nice. Et bon, vous savez, ils chantaient, tac, parlaient en langue. Ça... Mais c'est soudain mon père qui a parlé en langue. Et prié en langue, je vous voyais. Alors ça m'a réveillé d'abord, c'est un signe. Et puis il y a eu l'interprétation. Et l'interprétation m'a peiné, c'était de Dieu. Et c'est là que je me suis converti. Sur place, ils n'ont jamais su d'ailleurs là-bas. Hein, converti sur place. Hein. Parce que c'était le secret de mon cœur qui était dévoilé, et bon. Alors, donc ça, c'est le parlant. Mais maintenant, je voudrais, vous parler de la prophétie. Donc, dans ce cadre-là, vous parlez maintenant de la prophétie. La prophétie, on a celui qui prophétise, donc vous avez au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. La prophétie, c'est parler de la part de Dieu au peuple ou à quelqu'un dans la langue qu'il comprend. La prophétie est soit pour l'édification, la consolation, jamais pour un jugement. Vous devez comprendre, le jugement, quand quelqu'un dans l'église se lève, envoie sa prophétie, petite vanne, boum, 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 hein, pouvez-vous dire, cette personne dépasse ses limites. Par contre, il peut se produire. Le don spirituel de prophétie, elle est pour tous. Moïse dira à Josué, hein, qui dit empêche-les de prophétiser, ils n'ont plus à Dieu que tous prophétisent. Hein. Et Paul dit, je voudrais que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre que Dieu veut que nous grandissions et que le don prophétique, le don, est accessible si nous le désirons, si nous y aspirons, si nous le voulons, pas pour nous, pour les autres. Et alors, bien sûr, quand soi-même on exerce des dons prophétiques, parfois on devient sensible à la voix de Dieu, et Dieu peut nous parler aussi par cette sensibilité pour nous-mêmes, mais le don est là, prophétise, au contraire, parle aux hommes, parler en langue, interprétation, je peux me parler à moi-même, parler aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, un but de construction, d'exhortation, d'encouragement. Ça, ce genre prophétique est accessible à tous les chrétiens, sans exception. Par contre, il y a le ministère de prophète, qui lui, c'est autre chose. Le ministère de prophète, ça ne dépend pas, vous pouvez aspirer à être un prophète, mais ce n'est pas pour ça que vous le serez. Hein. Le ministère de prophète n'est pas suite à un engagement chrétien, suite à une manifestation chrétienne, spirituelle, des temps de réveil, etc. Non, le ministère de prophète, comme tous les ministères d'Éphésiens 4, 11, ce sont des choix, ce sont des décisions unilatérales de Dieu. Vous pouvez beau vouloir être pasteur, si vous appelle pas, vous lancez pas, vous allez laisser votre peau. De la même façon, ce n'est pas parce que j'ai envie d'être prophète que je le suis, c'est un choix, c'est une décision. Et je vais vous dire quelque chose, et ça remonte, ce choix de Dieu, cette décision de Dieu, remonte avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu choisit, il avait décidé de réunir tout en Christ, qui est dans le ciel et sur la terre, donc le corps de Christ était prévu de toute éternité, allez comprendre ça avec notre intelligence limitée, et vous devez savoir que votre vocation, mais aussi la vocation des ministères, c'est pas quelque chose, Paul dira, c'est pas de celui qui court, qui veut. Ce sont des choix que Dieu a fait, qui nous a connus d'avance, avant même qu'on existe, ce n'est pas à cause de nos mérites, ce n'est pas parce qu'on est des bons gens qui donnons beaucoup d'argent ou faisons beaucoup de prières. C'est Dieu qui a décidé ça avant que le monde existât. C'est la grâce. Donc les ministères, le choix des ministères, les vocations, déjà en tant que ministère de prophète, ça c'est des choix de Dieu. Paul dira, celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère. Jérémie, pareil, avant que tu puisses, Dieu lui dit, avant que tu connaisses, je te connaissais, je t'avais établi prophète des nations. Ça remonte, et votre vocation et la mienne remonte avant que nous existions. Ce n'est pas un problème de mérite. C'est pas parce que vous avez été au catéchisme, que vous avez été un bon petit curaillon. C'est pas pour ça. C'est parce que Dieu l'a décidé avant toute éternité. C'est la grâce. C'est l'autorité de Dieu. Il a fait comme il veut. Il sait ce qu'il fait. Et Paul dira, mais alors toi, écoute, petite argile, tu vas commencer à discuter avec le potier ou quoi? Hein? Alors apprends à te soumettre. Et votre vie réussie, c'est recevoir la révélation dans la marche concrète de chaque jour, recevoir la révélation et mettre en action votre identité, c'est-à-dire votre personnalité réelle, qui a été abîmée par le péché, par toutes sortes de choses, mais que l'Esprit de Dieu régénère, remettre en vigueur votre identité, votre personnalité propre selon Dieu, celle que Dieu a prévue pour vous depuis toute éternité, celle que vous avez reçue en Jésus, et qui doit se libérer. C'est le choix de Dieu, et alors vous pouvez y aller. Et donc le prophète, c'est autre chose. Alors un prophète, c'est vraiment quelqu'un qui non seulement est appelé par Dieu, mais il est également reconnu par les autres, reconnu ou par l'Église, ou reconnu par les d'autres ministères qui eux-mêmes sont reconnus. Parce qu'il y a des gens, ils sont reconnus par des gens qui eux-mêmes ne sont pas reconnus. Et actuellement, c'est le grand problème. C'est le grand problème. Vous avez ce qu'on appelle les ministères autoproclamés. Hein, dans les rencontres de pasteurs, c'est le grand problème aujourd'hui. Chacun se bombarde, apôtre, prophète, évangéliste, etc. On appelle ça les autoproclamés. Et les chrétiens foncent. Mais vous devez savoir que l'autoproclamation, il y a des gens que Dieu suscite. Hein, vous avez des gens qui n'ont jamais été reconnus au démarrage parce que Dieu les a oints, ils ont foncé. Hein, ils ont même eu de l'opposition. Ça arrive. Mais c'est une exception, hein. Mais vous avez normalement dans le corps de Christ, quand quelqu'un a un ministère, eh bien, il doit être reconnu pour ne pas être un franc-tireur qui fait ce qu'il veut, quand il veut, et quand ça capote, tout le monde est par terre. Donc, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du ministère. Alors, je reviens au prophète. Il y a le prophète, c'est plus qu'apporter des prophéties. Le prophète, c'est quelqu'un qui, à la fois, peut enseigner, prédicateur, en fait, vérifier les pères, c'est-à-dire les pères P-A-I-R-E, c'est-à-dire les autres ministères du corps ou certains ministères du corps, reconnaissent non seulement une onction de prophétie qui peut reposer sur les chrétiens ou sur une église peut-être prophétique parce que beaucoup de chrétiens prophétisent, mais le ministère, c'est un bonhomme ou une femme, vous savez, les prophétesses existent, hein, donc qui a sur lui ou sur elle, ce choix de Dieu, ce sceau de Dieu que les autres reconnaissent par le fruit, par la réalité, par le caractère. Alors, il est important pour... On voit que, si vous voulez, et il faut bien faire une différence entre la divination, entre guillemets, évangélique, et le prophète. Vous avez des gens, et ça aussi, on voit que les chrétiens se livrent parfois à n'importe quoi. Vous devez savoir qu'il y a des gens, avant leur conversion, on fait toutes sortes de marche spirituelle. Ça a été dans tel secte, dans tel truc, ont été des médiums, avaient des dons de divination avant leur conversion. Ils se convertissent, ils viennent à l'église, et puis voilà que tout à coup, ils se mettent à prophétiser. Et tout le monde dit maintenant, ils sont chrétiens. C'est l'Esprit de Dieu? Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être l'esprit médium qui est en eux, qui... Par exemple, c'est surtout très clair dans les paroles de connaissance. Et vous comprenez, c'est pour ça qu'on a besoin. Il y a besoin d'aînés qui puissent protéger les chrétiens. Vous avez la parole de connaissance. Prenez un exemple. Je suis là. Mais je vais prendre un exemple de ma mère. Ma mère est décédée, je peux en parler là. Ma mère, tout gosse, féru, horoscope, ligne de la main, pendule, etc. Grandit dans cette atmosphère-là, un peu, tout en étant protestant et allant à l'église le dimanche. On ne savait pas. Mais ma mère, elle avait une intuition. À 3 heures du matin, elle se réveillait, réveillait les employés et disait, il faut chercher mon mari, il a un accident de voiture, quelque part. Les gars partaient avec la voiture, 3 kilomètres plus loin, la voiture était en feu. C'est pas le Saint-Esprit, la divination. Et si vous voulez, quand la personne se convertit, son âme, on appelle ça des liens d'âme, son âme est familiarisée avec la divination. C'est sensible. On est sensible. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la révélation. Et parce qu'on cueille une vérité, on pense que c'est de Dieu. Mais non. C'est une divination occulte. Rappelez-vous, Paul, qui est, je ne sais plus où ils étaient à Philippe, justement, cette fameuse femme, cette pythonisse, qui dit, ces gens-là, c'est des serviteurs de Dieu. Mais elle dit la vérité, la dame. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, une personne fait ça dans l'église, tout le monde dit Alléluia. Quelle onction! Quelle onction! Elle dit, serviteur du Très-Haut. Et vous remarquerez que Paul n'a pas bougé au démarrage. C'est-à-dire qu'il devait se poser des questions, c'est du lard ou du cochon? Parce qu'elle leur faisait une pub, hein. Excusez-moi du terme, elle leur faisait la pub. Et puis à un moment donné, ça vient, discernement, l'énervement de Paul, il sent, vous savez, quand quelqu'un exerce un don, ça vous énerve. Vous ne savez pas pourquoi. Ça vous met mal à l'aise. Intellectuellement, il dit la vérité. Intellectuellement, elle dit la vérité. Intellectuellement, ça a l'air parfait. Mais au fond de vous, vous avez un malaise, vous ne comprenez pas. Votre intelligence avale, mais votre être intérieur, au fond, est mal à l'aise. Là, il faut faire attention. Je prends donc le ministère de prophète, c'est donc différent. Et je voudrais maintenant en arriver à ça, le prophète reconnu, contrôlé, accompagné. Parce qu'un prophète qui est tout seul, pourquoi est-ce qu'on a parfois des prophètes, pourquoi vous voyez parfois les pasteurs qui sont un peu allergiques au rassemblement prophétique à droite, à gauche? Tout simplement parce qu'ils se disent beaucoup de choses. Ils disent beaucoup de choses, parfois même par des réels prophètes, mais il n'y a pas l'accompagnement ou pastoral ou apostolique. Les gens avalent, ils repartent dans leurs églises, et c'est un carnage. Prendre un exemple de prophète véridique aussi. C'est pour ça que nous disons que le prophète doit être accompagné de l'apôtre ou du pasteur dans ses manifestations publiques, parce qu'il y a danger d'erreur. La parole de Dieu dit, prenez ce qui est bon, laissez ce qui est bon, donc il y a que les autres jugent également. Il y a des choses que tout le monde peut juger, et il y a d'autres choses que... Je vais prendre un exemple, sans citer des noms ni rien. Il y a quelque temps de cela, un frère que vous connaissez bien, c'est un ami, il n'y a aucun problème. Le ministère de prophète a annoncé que Chirac allait se convertir, qu'il allait y avoir des troubles énormes dans le pays, et très rapidement. Et c'est passé sur Internet, et vas-y la galère. Non seulement le frère, il s'est fait des ennemis irréversibles, il y en a qui l'inviteront plus. Je vais prendre un autre. Mais le frère-là qui est sincère et qui ailleurs parfois donne des très, très bonnes paroles de connaissance, dans le milieu dans lequel il était, dans l'effervescence dans lequel ce milieu se trouvait à ce moment-là, ne lui permettait pas d'être protégé normalement. Vous avez un autre, pour vous montrer qu'on est un autre, qu'on a même invité au séminaire de Saint-Laurent-du-Pont, parce qu'il y a des bonnes choses, etc., mais qui avait annoncé, il y a 1000 ans, le bug. Vous savez que le bug, c'est-à-dire que la catastrophe, tout allait sauter, les avions, tout ça, un gars très connu, etc. Résultat, bagarre chez les pasteurs, comment ça se fait que tu invites un gars comme ça? Tu vois bien qu'il donne peur aux chrétiens, il amène des trucs. Vous voyez, des tensions entre serviteurs de Dieu, des tensions dans l'Église. Parfois, vous avez eu des frères qu'on a invités comme ça à Saint-Laurent-du-Pont ou dans les séminaires d'été, mais vous savez, après, des pasteurs sont venus me dire, t'as invité tel frère, hein. Mais il dit, les gens qui étaient au séminaire, après, sont venus nous trouver pour qu'on prie pour eux parce qu'ils avaient peur. On doit comprendre que la prophétie, c'est une chose, pour un chrétien édifié, consolé, encouragé, ok. Mais quand ça devient des révélations, alors il y a... Là, vous avez plusieurs trucs. Quelqu'un a-t-il à parler en langue? Que faire donc, frère? Il dit, que faire donc? Lorsque vous assemblez, les uns parmi eux ont-ils un cantique? C'est un cantique spirituel ou un cantique dans la langue compréhensible? quantique spirituelle, une révélation, une instruction, donc une pensée de la part de Dieu, prophétie haute, une révélation, c'est-à-dire une parole de connaissance, ce n'est pas naturel, je reçois une révélation. Voilà, demain, la sœur Lambert va gagner au loto. Déjà, vous commencez à dire que Dieu n'encourage pas ça, parce que l'argent vient par le travail, hein, jamais par les jeux, etc. Bon, mais enfin, une révélation, que tout se, une interprétation, donc on dit que tout se fasse pour l'édification. Et il y a l'ordre, deux ou trois parts, les autres jugent, on regarde, et je pense qu'il faut qu'on revienne à faire le bilan périodiquement des prophéties qui ont été données dans l'Église, est-ce que ça s'est accompli, les révélations qui ont été données, les paroles de connaissance, pour que ce soit crédible, parce qu'il y a énormément de choses qui sont dites, et dont on ne voit jamais l'impact à la fin. Donc il faut redevenir sérieux. Et Dieu se laisse éprouver, hein, ce n'est pas un manque de foi, c'est une vérification que les autres jugent. Donc, mais alors je voudrais dire encore ceci, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais dans ces trois quarts d'heure, on ne peut pas. On aura l'occasion, mais je veux dire, la prophétie, pratiquement, et c'est ça qu'il faut le dire, vous devez aspirer. Si vous priez en langue, si vous parlez en langue, priez pour avoir le don d'interprétation. Ce n'est pas compliqué. Au démarrage, vous direz peut-être simplement quelques mots, et puis vous vous arrêtez. Ensuite, vous développez plus, et progressivement, ça va se développer, vous allez pouvoir ajouter. Je vais prendre un exemple prophétique très simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dimanche dernier, je pense, qui me concerne, que j'ai pu vérifier. Dimanche dernier, il y avait donc l'INST, hein, les trucs de la formation biblique. Et il y avait donc le culte, il y avait un groupe de louanges qui venait de Mulhouse, et il y avait des pasteurs, quelques pasteurs, en plus de ça, des assemblées de Dieu, donc pas de notre famille spirituelle, et il y avait d'autres personnes. Et vous montrez, tout à coup, moi j'étais assis dans les rangs, assis devant simplement, et tout à coup je me suis levé. Pendant que j'étais assis là tranquillement, tout à coup, simplement, il n'y a pas besoin de sonner le chauffard, hein, simplement, tranquillement, c'est différent. Il y a des personnalités prophétiques différentes. Il y en a qui font des gestes, il y en a qui font des danses prophétiques, il y en a qui ont des chants prophétiques, il y en a qui sont très simples, qui sont beaucoup plus froids. Il y a diversité de prophètes. Jérémie, c'est pas Ésaïe. Ésaïe, c'est pas Zacharie. Ézéchiel, c'est pas Amos. Donc, vous devez bien comprendre qu'il y a diversité d'expressions selon le caractère et les charismes prophétiques que Dieu a donné à différents prophètes. Ou même dans l'exercice des dons simples. Par exemple, très bien, un jour, j'ai vu un frère, c'était André Wilkinson, en pleine pastorale, c'était à Louveteau, en Normandie. Il s'est levé, il est allé à la cuisine, il a cherché une grande casserole, et dans cette casserole, il y avait un grand trou usé. Il l'a placé devant un pasteur, qui gérait tout le truc, qui était un des responsables. Il l'a mis devant lui, il dit, tu vois, tu es comme cette casserole trouée. Je ne sais pas s'il était plein d'amour, mais il dit, fais attention, ta vie, ça c'est en train de couler, si tu ne fermes pas, ça va mal se terminer. Tout le monde m'a dit, surtout que c'était quelqu'un en vue à qui il a dit ça. Tout le monde a vu, il exagère, et patati patata. 4 mois après, sa femme partait avec son médecin. C'était le divorce, c'était la débandade. Casserole trouée, personne ne l'avait vu. Il n'a pas dit, c'est une forme prophétique. Mais je reviens dimanche dernier, simplement pour montrer, tout autre. Je suis assis là, j'ai dit, il y a quelqu'un de passage ici, et c'est un responsable. Je ne connais pas leur vie privée. Et j'ai dit, bon, je me lève, je prends le micro. Si vous avez... Je dis, voilà, c'était pas ça, j'avais une responsabilité. Voilà, vous aspirez. Et j'ai dit quelque chose que je n'avais pas du tout vu ou reçu au moment où j'étais assis. C'est pendant que je parlais au micro, et j'ai dit, rappelez-vous votre enfance, où Dieu vous a mis à cœur avec Dieu, tel je ne me rappelle plus bien les paroles. Et j'ai parlé d'enfance. Que là, quand il était jeune, que cette personne était très jeune, dans son enfance, elle avait aspiré aux choses de Dieu. J'avais donné quelques détails, et j'avais dit, donc, ce que l'Esprit de Dieu demande, c'est prendre du temps, de t'arracher de ton... C'était quelqu'un qui était très comment on peut dire, très finaliste, très méthodique, etc. Arrache-toi de là et prends du temps devant Dieu. C'était un peu le sens. Hein. Bon, moi, je me suis rassis, hein, je laisse ça, etc. Le soir, après la réunion, quand on a eu un temps de prière, ensuite, le dimanche après-midi, ils ont demandé de prier pour les gens, et voilà qu'un des pasteurs arrive. Il vient me voir, il me prend à part, il me dit, tu sais, c'était vraiment pour moi, ça. C'était vraiment pour moi. Il me dit, quand tu as parlé de l'enfance, voyez, il y a des signes qui ne trompent pas, des points précis qu'on ne peut pas inventer. Il dit, c'était vrai à 10 ans. Au moment de prière, tout gosse. Demandez à Dieu. Il est reparti gonflé, bien sûr. Mais je veux dire par là, c'est pas seulement pour les chrétiens. Vous êtes à l'école, copain ou quelqu'un, vous êtes en lieu de travail ou un membre de la famille, vous discutez tout à coup, vous recevez une pensée. Simple, c'est pas. Et vous dites, cette personne a tel problème. Et vous prophétisez, vous dites, écoute, Dieu me montre que tu as tel problème. En 2 secondes, vous arrivez à évangéliser quelqu'un 100 fois plus efficacement que tout le reste. Voyez l'importance de la prophétie. Vous pouvez commander, je veux, Paul a dit, je voudrais, vous pouvez tous parler en langue, je voudrais plus que vous prophétisiez. Puisse être au milieu de nous et que notre, et il y a l'onction prophétique sur une église, où ça devient de plus, où chacun d'entre vous, vous apprenez, n'ayez pas peur à la gare. Ce qui est important, c'est pas de se mettre en avant, c'est pas de se produire, moi j'ai. Non, alors là, c'est malheureux, mais ça fait vomir tout le monde. Non, mais par amour, par désir d'évangéliser, par désir de sauver les âmes, par désir aussi d'aider les autres, en un mot, un esprit de serviteur et de servante, aspirez, priez, Seigneur, et n'ayez pas peur. Une pensée, une petite, pas besoin d'être long au démarrage, jetez-vous à l'eau.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.